sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Muriel Joudet, Lucille Como et Antoine Guillot pour parler ensemble du cas Richard Jewell de Clint Eastwood, une mère incroyable de Franco Lolli, Jimpa, un conte tibétain de Pema Tseden et il y aura un coup de cœur de Lucille Como pour Des Hommes d'Alice Audio et Jean-Robert Vialet. Et nous ouvrons cette dispute avec le cas Richard Jewell de Clint Eastwood, le 100e film de Clint Eastwood. Non, je plaisante, hein. C'est son 38e. Le 50e, je plaisante encore, non, c'est le 6e de suite basé sur des faits réels. Non, je dis ça parce que j'avoue que je n'ai pas été voir ce film. Mais je vais vous écouter avec passion. Concernant ce cas Richard Jewell, qui s'intéresse à un vigile, qui, lors des Jeux Olympiques d'Atlanta en 96, découvrit un sac à dos contenant une bombe, mais très vite, le FBI va le soupçonner d'avoir lui-même déposé cette bombe.
Let's get a new tape going. All right, Richard, here's what we're going to do.
We need a voice exemplar.
I want you to say into this phone, there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
Richard, you're a national hero now.
Thank you, sir. But I was just doing my job.
Move away from the tower!
You always look at the guy who found the bomb just like you always look at the guy who found the body.
Jewell fits the profile of the lone bomber.
A frustrated white man who is a police wannabe who seeks to become a hero.
We're running it.
You're a suspect.
You don't talk.
I talk. Say it.
I don't talk.
This might be the only way to clear your name. I want you to say there's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
Stop trying to be their best friend.
I was raised to respect authority.
Authority's looking to eat you alive.
There's a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
I'm sorry, what?
His accusers are two of the most powerful forces in the world. The United States government and the media.
I do want to help y'all. I'm law enforcement too. There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
Did he do it?
Richard Jewell is an innocent man. He's a hero.
There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
One more time, just a little louder.
I report the facts.
You've ruined this man's life.
There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
Do a couple in a row.
My son saved people's lives.
There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
You set that bomb.
Richard, we want to
go. There is a bomb in Centennial Park. You have 30 minutes.
I don't know how to protect you.
I think your client is guilty as hell.
They want to fry you.
You ready to start fighting back?
Un premier tour de table rapide pour cueillir un premier sentiment sur ce film de Clint Eastwood, Muriel Joudet.
Je dirais un portrait de petit garçon, ce qui est assez étonnant de la part de Clint Eastwood.
Qui est un grand garçon, lui-même.
Oui, un très très grand garçon.
Lucille Como.
Moi, je dirais un film qui veut être efficace et qui échoue en partie, mais qui reste intéressant sur la question de l'image et de la représentation.
Non, mais je vais essayer de comprendre. Antoine Guillot.
Moi, je trouve que c'est un grand petit Eastwood.
Qui va commencer? Muriel Joudet.
Alors, moi, c'est pas mon Eastwood préféré. C'est pas celui que des dernières années. C'est pas celui que je trouve le plus passionnant.
Ce serait lequel, alors, des dernières années?
Le plus complexe, le plus passionnant. Ouais. Moi, ce serait Sully, ce serait American D'accord. Sniper.
Ah oui.
Oui, mais ça se joue sur deux trois plans qu'il faut bien voir en fait, Eastwood très souvent, surtout American Sniper, et notamment aussi celui-ci que j'ai revu pour mieux comprendre parce que je me dis mais il y a un truc qui est bizarre, j'aime vraiment pas du tout le film et je l'ai revu et là j'ai compris. En me focalisant notamment sur ce personnage et sur cet acteur, dont Paul Walter Hauser. Et quand on parle d'héroïsme, comme vous l'avez dit, il faut toujours arrimer cette question à celle du fait réel, parce que c'est ça, en fait, son objet d'étude. C'est cette passion du fait réel, cette passion de la reconstitution, et ces films sont habités par une sorte de d'obsession pour le miracle du fait réel, c'est-à-dire de cela a été, cela a existé. Donc ces films se terminent très souvent sur la photo des vrais héros, et là, bon, on a un carton qui nous annonce donc la mort de Richard Jewell qui a fait un infarctus, je crois. En tout cas, il y a c'est très important. Tout le film converge vers le cela a été. Et à ce titre, je ne trouve pas le film passionnant. Moi, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est ce corps de gros petits garçons, enfin de petits garçons obèses. Et d'ailleurs, Eastwood insiste vraiment là-dessus. Et je trouve ça vraiment déchirant, puisque c'est un petit enfant planté au milieu des adultes qui a un rapport au maintien de l'ordre absolument littéral, hein, by the book. C'est ce qui rapproche un peu le film, par exemple, du Pont des Espions, de Spielberg. On a des personnages comme ça qui sont by the book. Il est tellement by the
book. Voilà, trois mots, hein.
Comment on dit en français by the...
Vous avez dit...
Zélé, c'est du zèle.
Oui, zélé, littéral. Il est tellement littéral, notamment cette scène au début avec les sneakers. Il veut tellement bien faire que c'est le coupable idéal. Et ça, je trouve ça très, très beau comme idée. Et en fait, en revoyant le film, ce qui m'a le plus intéressé, c'est peut-être cet itinéraire de petit garçon qui, comme tout petit garçon, veut faire un métier. Alors, il y a ceux qui veulent être pompiers, ceux qui veulent être médecins. Et lui, il va être policier. Mmh. Et il est entravé, en fait, dans sa quête par cette mise en accusation. Et je n'ai vu que ça, en fait. Tout ce film qui convergeait vers le costume de policier, vers ce rêve qui se réalise. Et c'est plutôt la première partie, en fait, qui m'intéressait. Tout ce qui se passe avant l'attentat, notamment cette scène qui m'a émue aux larmes. Alors c'est très bizarre, de Macarena géante, où c'est très étonnant de voir Eastwood filmer une scène en fait de ce qui est peut-être la démocratie américaine, c'est-à-dire cette insignifiance, ces gens heureux, un peu voilà, un peu laid, un peu normaux, ordinaires, qui dansent une Macarena, cet agent de la sécurité qui finalement rend possible cette Macarena sec, qui est très beau dans cette scène. Et je crois que ce qui était aussi très beau dans le 5h17 pour Paris, et que j'avais pas compris en fait au début, c'est que il s'intéresse de plus en plus à l'insignifiance des grandes démocraties occidentales, à finalement dans 5h17 c'était ces jeunes qui vivent presque une vie de pub Airbnb, qui font ce que font tous les jeunes quand ils font du tourisme, et c'est ça qui me bouleverse le plus dans le film, c'est quand Eastwood finalement n'est plus Eastwood, quand il vole comme ça, il observe ces scènes qu'il n'a jamais vraiment filmées avant, d'insignifiance démocratique, je dirais ça comme ça.
Lucille Como, pour poursuivre.
Oui, c'est vrai que ces scènes dont parle Muriel sont certainement les plus convaincantes. Le problème, c'est qu'elles se limitent à, en effet, une première partie, à un premier quart du film, jusqu'à ce que la bombe, en effet, explose, et qu'après, le film change de genre et devienne un film de réhabilitation judiciaire du personnage. Et là, c'est quand même très ennuyeux, ce qui est dommage, parce que je pense qu'il y a une demi-heure de trop, alors qu'on aurait pu avoir quelque chose de très serré à la Sully, justement, que je trouvais aussi très bon. C'est à peu près le même fonctionnement, un héros qui est instauré en héros, mis en accusation et qui est réhabilité. C'est une trajectoire assez parfaite, avec une tension inhérente, naturelle. Or là, disons que le naturel de cette tension-là est un peu compromis par des scènes, notamment familiales, mais on y reviendra peut-être, avec la mère, parce qu'il vit chez sa mère, cet homme-là, qui sont quand même très longues et assez lourdes. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est en effet aussi cet acteur et la manière dont il surgit dans le cinéma d'Eastwood. Ce qui est intéressant, c'est que, en effet, il est un peu comme un enfant face aux adultes, comme le disait Muriel Joudet. C'est aussi une forme de manichéisme qui est l'authenticité, c'est-à-dire vraiment la vérité, contre le cynisme. C'est-à-dire qu'il a en face de lui des représentants des institutions américaines, donc la presse et la justice sous la forme du FBI en l'occurrence, qui sont des acteurs au physique hollywoodien absolument type, en l'occurrence John Hamm et Olivia Wilde, qui en plus ont des espaces, enfin sont souvent ensemble dans des espaces qui sont vraiment très typés dans le film de genre. Ils se retrouvent dans un bar à cocktail un peu chic, ils se séduisent, il y a quelque chose de très sensuel entre eux. Et lui, il arrive là-dedans avec son corps complètement différent des acteurs hollywoodiens typiques et il pose problème au cinéma. Il pose des problèmes de représentation. Il y a un moment où... il y a une perquisition qui doit avoir lieu chez lui et il se trouve que l'avocat constate vraiment avec un peu de désespoir que il va rentrer dans toutes les cases de ce qu'on l'accuse, à savoir être un blanc frustré qui s'est retourné et qui veut absolument être flic, passionné par la violence, complètement fasciné par les armes. Il se rend compte qu'il a un arsenal d'armes incroyable qui est étalé sur son lit. Il dit mais non, mais là tu vas rentrer pile dans l'image qu'on donne de toi dans les médias, c'est la catastrophe. Et cette question de la représentation, de comment on représente, alors même que Clint Eastwood fait la même chose, c'est-à-dire il filme cette personne qui rentre aussi physiquement dans ses habitudes, dans son quotidien, dans les clichés en effet du type qui se transforme en psychopathe pour attaquer la société américaine qui l'a produit. C'est assez passionnant parce que il y a quelque chose presque de paradoxal, de contradictoire, qui menace même le film, parce que après tout, comment on peut le réhabiliter si en effet il a le profil type du psychopathe? Et ça, c'est assez intéressant. Il y a aussi, bon, j'y reviendrai peut-être, une scène de caméra. Il y a une caméra à un moment donné qui est filmée, puisque le FBI essaye de le piéger et de lui faire signer un document officiel pour qu'il, en gros, il renonce à ses droits à être défendu. Et là, on se dit, mais alors, où est la caméra d'Eastwood? Est-ce qu'elle, elle le piège aussi en faisant un objet? Est-ce qu'elle le défend vraiment? Enfin, c'est vraiment ces questions-là qui m'ont intéressée, parce que sur le, disons, sur un premier niveau narratif, c'est quand même assez ennuyeux. Moi, je me suis beaucoup ennuyée, notamment la fin est très longue.
Antoine Guillot.
Mais c'est précisément, là je partage complètement vos avis, c'est précisément dans ces contradictions et même dans cet ennui que le film, je trouve, est très intéressant, parce que il poursuit quelque chose et il le cite même à l'image. À un moment, il y a à la télévision le Iwo Jima d'Alan Dwayne avec John Wayne, en une manière de nous dire que ça, il fait le même film depuis Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima, sauf qu'il le raffine de plus en plus d'une certaine manière dans la contradiction. Au départ, c'était la question de la fiction qu'il interrogeait et sur laquelle il a lui-même travaillé depuis des années par rapport à son propre personnage, sauf que maintenant c'est cet effet de réel qu'il recherche en filmant précisément l'Amérique d'aujourd'hui telle que nous ne voulons pas la voir et telle que les côtes est et ouest des États-Unis ne veulent pas la voir, c'est-à-dire cette Amérique centrale moche avec des idées extrêmement réactionnaire, avec des armes partout, qui s'enferrent dans leur propre délire de boy scout insupportable et d'obéissance à la loi. Et effectivement, le personnage va s'enfoncer de plus en plus. Chaque fois qu'il essaye de se défendre, c'est encore pire parce qu'il va déballer son arsenal. Il va dire « au fait, j'ai pas payé mes impôts ». C'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un qui croit à une forme supérieure de l'ordre où il aurait le droit de du moment qu'il porte un uniforme d'emmerder tout le monde. D'ailleurs, on lui dit à un moment, là tu vas être content, là tu vas pouvoir fliquer tout le monde, ça va être les Jeux Olympiques, là tu vas vraiment en avoir l'occasion. Donc c'est un personnage, mais vraiment qu'on a tout pour détester et qui est utilisé généralement comme repoussoir. Et Eastwood, sans le réhabiliter précisément et en montrant jusqu'au bout toutes les contradictions, c'est quand même, une fois qu'il aura été innocenté, il va continuer dans ce même sorte de délire qui fait que on aurait tout, là encore une fois, pour le détester, et on s'attache à lui. Voilà. Mais on s'attache à lui sans l'approuver, forcément. Et c'est là que c'est assez passionnant pour un cinéaste dont on sait l'attachement politique, qui va nous présenter l'idée même du trumpiste, celui qui déteste les institutions. On pourrait se dire, tiens, Trump doit adorer ce film, c'est contre le FBI, c'est contre la presse, etc. Sauf qu'il va jamais le héroïser à rebours en nous disant, regardez, c'est formidable. Mais lui, non, l'Amérique est comme ça aujourd'hui. Moi, c'est ce que j'ai envie de filmer maintenant. Je suis en train de terminer ma carrière de cinéaste et j'ai envie de m'intéresser. C'est même pas le Sully qui est joué par Tom Hanks. Donc, on a une star qui, malgré tout, reste hollywoodienne dans son combat et on est content qu'il soit réhabilité. Là, même la fin, là, c'est une sorte de goût d'amertume. On se dit, tout ça pour ça, mais oui, mais c'est ça l'Amérique d'aujourd'hui. Et par ailleurs, c'est aussi, je sais pas si on l'a dit, c'est quand même un film qui est aussi très drôle grâce à ça, c'est-à-dire grâce à cette manière de ce personnage de s'enfoncer en permanence et le duo qu'il forme avec l'avocat, qui lui-même est un drôle de personnage, qui est un avocat d'une ringardise totale, qui arrive en tongs quasiment à ses procès, qui n'est pas le type droit qui va s'emparer d'une affaire. Il va se jouer une amitié entre eux et une amitié burlesque que je trouve très inattendue chez Eastwood, ce qui fait que voilà, voilà, c'est un film, je trouve même plus intéressant que Sully pour ça, parce qu'il est moins, rond, il est très âpre et très bizarre.
Bon, c'est finalement un peu rond.
Non, le style, comment il est obèse, c'est pas pareil.
Non, mais c'est vrai que l'héroïsme est tout le temps questionnable. C'est-à-dire qu'en fait, la trajectoire de la réhabilitation, elle est pas du tout évidente et que la fin est en effet extrêmement amère parce que c'est tout le temps questionné et c'est lié en effet beaucoup à l'emploi de cet acteur que personne ne connaît et qui en effet est un anti-Sully. C'est-à-dire qu'on peut croire que c'est quand même le même film et on se rend compte que c'est pas du tout la même chose. Et d'un point de vue à la fois bon cinématographique dans la carrière d'Eastwood et idéologique, c'est assez surprenant. C'est-à-dire que le type quand même continue à nous surprendre alors même qu'on l'a pu le caser dans des trucs assez clairs. Et ce déplacement de manichéisme du gentil contre méchant à authentique contre cynique, je trouve ça assez intéressant. C'est pas du tout la même chose en fait. C'est certes aussi manichéiste, mais manichéen plutôt, mais très différent.
Ouais, j'ai vu que ça devait être Seth Rogen et DiCaprio. C'est donc une bonne chose que ce soit pas eux qui sont quand même producteurs du film.
Ça aurait été un contresens total. Après, je pense
c'était eux au départ.
Ah bah ça aurait été. Et
ils produisent le film.
Complètement.
Ouais, non, j'ai même pas envie de penser à ce film. Ça aurait été trop bizarre parce que c'est vrai que c'est ce corps qui fait événement. C'est un corps qui est en trop des premières scènes. Moi, il me bouleverse. J'ai l'impression de voir un personnage Pixar, quoi. Vraiment, c'est un autre régime d'image, quasiment. Et c'est vrai que ce que disait Antoine sur le Alan Dwan qui passe à la télé, en y pensant, je me dis, c'est ça, en fait, maintenant, le cinéma, ça passe à la télé, c'est plus mon affaire, c'est les westerns, c'est derrière moi, les films de guerre, c'est derrière moi.
C'est même dérangeant, à un moment, le personnage de Kathy Bates, c'est-à-dire, on n'en peut plus de ces explosions, arrêtez. Couper l'image.
Voilà, c'est exactement. Et c'est vrai que j'avais pas commenté cette scène dans ma tête. Et ça c'est très beau. Après, c'est vrai que il y a presque un corps qui a un discours en soi. Et Eastwood, le film, il y a une scène hyper belle où il va avec son avocat voir la journaliste. Donc on a vraiment un discours de newsroom. Là, on est vraiment chez Capra dans l'idée dans la manière dont il dépeint le journalisme. Et il dirige l'acteur de telle sorte qu'il fait dos. À la journaliste tellement il est intimidé et moi c'est une scène qui m'a bouleversée. Il mange, quand il est contrarié, il mange un cookie, il mange un gâteau, à la fin quand on lui dit c'est fini, on va te laisser tranquille, il parle en mangeant un hamburger. Et c'est des petits détails qui, quand on, et peut-être que ça joue quand on revoit le film, qui moi m'ont bouleversé à force. Et c'est vrai que finalement c'est pas tant une trajectoire de héros que peut-être que ce que je disais au début, c'est-à-dire laisser cet homme tranquille, laisser le devenir ce qu'il veut, c'est-à-dire un modeste agent de police, laissez-le rentrer dans son image.
Oui, et mais qui peut faire du mal, c'est-à-dire que.
Ouais, après, moi, c'est vrai que il m'a pas apparu antipathique, je l'ai pas trouvé dangereux. Le côté libertarien, c'est vrai que j'ai pas été très sensible.
À la fin, son regard, enfin, on va pas tout tenir, mais il y a quand même quelque chose d'une gravité et d'un potentiel danger. C'est-à-dire que, en effet, il a sauvé peut-être quelques vies. Mais franchement, moi, je ne ferais pas trop confiance.
Je le vois vraiment positivement, totalement.
Ah, moi, pas sûr.
Antoine Guillaume, non.
C'est ça qui est
plutôt du côté de Lucille Gaumont.
Mais non, mais ce qui est bien, c'est qu'il est entre les deux. Mm. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pense faire le bien et qui peut faire des choses atroces. Et il n'y a aucune rédemption, aucune évolution du personnage pour ça. C'est un bloc qui ne bouge pas. Et ça, c'est assez passionnant.
Bon, donc il ne faut pas aller voir une fois le cas Richard Jewell. Ouais. Il faut aller le voir deux fois.
Oui. Tout à fait. En tout cas, plus
aider ce film, il a besoin d'argent.
Oui, j'imagine. Aider cette personne âgée en difficulté. On va quand même parler d'autres films, si vous voulez bien. Ce soir, nous allons parler d'Une mère incroyable de Gene Parr et Lucille Gaumont nous parlera, elle, de Des hommes.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute cinéma avec Une mère incroyable de Franco Lolli, un film qui a été présenté à la Semaine de la Critique à Cannes l'année dernière, film dans lequel on va rencontrer Sylvia, mère, célibataire, avocate au bureau des travaux publics de la ville de Bogota, mais des soupçons de corruption visent son patron et en même temps, la mère de Sylvia vit une récidive de son cancer et ne semble plus avoir l'énergie de se battre, autant dire que pour Sylvia, les temps sont rudes.
Uy, ¿qué es eso? Lo mismo.
Champán. Yo sé que su mamá estaba enferma. Yo sé lo de su niñito.
Obviamente le está pasando algo.
Me dicen que no tengo papá.
Y yo me conduelo, pero yo llevo 40 años construyendo mi imagen. Y si no la conservamos, el alcalde nos va a quitar de acá a todos.
Vivir o morirme, a mí eso me tiene sin cuidado. Yo no le tengo miedo a la muerte.
Tú se lo explicas a tu nieto de 4 años que su abuela se va a dejar morir y que la gente se deja morir cuando tiene miedo.
No hay novio, novia.
Tengo un hijo.
¿Y qué? ¿Cómo es el cuento de Antonio y el papá?
No hay papá de Antonio.
A mí el temor que me da es que le pretendan meter de padrastro a un tipo como ese.
No se asuste. Yo no estoy asustado, no se asuste. Nosotros no hemos hecho nada de mal.
Es que yo ya no sé qué está pasando en esta oficina.
No, Silvia, eres una persona increíble, una mamá increíble.
Une mère incroyable. Premier tour de table pour un premier avis, Lucille Como.
Oui, c'est un film qui pourrait se contenter de cocher des cases, celui du film, de la femme en crise, de la trajectoire féminine, mais qui est, à mon avis, plus que ça.
Antoine Guillot.
Mais c'est une mère incroyable et je trouve dommage que le film ne le soit pas.
Muriel Jodet.
Je suis très contente que ce ne soit pas un film à sujet. Voilà. Parce que j'en ai marre des films à sujet. Je voulais le dire. Voilà.
Très bien. Vous y reviendrez. Lucille Como, pour développer un peu, disons simplement pour une fois qu'il y a un titre français à un film étranger, je regrette souvent que les titres ne soient pas traduits.
Non, mais on va en parler là, de l'affiche et du titre. Et de, ouais.
Non, mais ça pourrait détourner un certain nombre de spectateurs dont j'aurais envie plutôt qu'ils trouvent le chemin de ces salles. Donc c'est pour ça que je le dis tout de suite. Lucille Como.
Oui, mais parce que le titre pose en effet des questions. Donc la mère, bon, c'est une évidence, c'est ce personnage principal donc, qui est Sylvia. C'est aussi sa propre mère à elle. Et il se trouve aussi que c'est la mère du réalisateur puisque Laetitia Gomez qui joue la mère est la mère de Franco Loli. Alors incroyable, c'est peut-être le problème, c'est cet adjectif-là parce que ça pourrait... renvoyer une sorte d'exemplum cinématographique, une mère exemplaire, une mère qui dépasse, disons, les critères classiques de la mère. Or, ça n'est pas tellement la question, ou alors c'est un cliché qui est assez déconstruit dans le film. Parce que c'est un cliché qui est vraiment cinématographique. Et d'ailleurs, le film part quand même sur ses bases. Moi, je dirais pas que j'ai eu peur, mais que j'ai craint peut-être le film à sujet dont parlait Muriel. La forme est assez classique au départ. Donc, c'est la trajectoire d'une femme, vous le disiez, qui est en crise, dans une Colombie contemporaine, disons, classe moyenne supérieure.
Bien en crise
elle
aussi,
est avocate.
Hein.
Voilà. Le elle pays. Est avocate dans un cabinet qui, du coup, est accusée de corruption. Elle a donc cet enfant qu'elle a choisi d'avoir seule, donc c'est une mère célibataire volontaire, et puis elle s'occupe en effet de sa mère qui a un cancer et qui en plus rechigne à se soigner. Ça c'est la première partie qui fonctionne comme vraiment en contexte naturaliste très classique, comme une accumulation de problèmes, c'est-à-dire que tout s'accumule et on a la crainte d'une trajectoire qui serait uniquement celle plutôt du drame familial et de l'effondrement total de cette femme-là. Or ça n'est pas du tout le cas parce que se joue ça arrive assez subtilement à des niveaux un peu secondaires de la narration, des espèces de fils qui se tisse au fur et à mesure. Donc une rencontre amoureuse qui, je trouve, est particulièrement bien réussie et assez subtile, y compris dans les ellipses qui sont proposées. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans des espèces de trous temporels. Mmh. Donc elle se sépare, elle se remet avec ce type. Ça reste assez lointain. Également dans la relation avec la mère qui se complexifie dans des scènes de rapport de force particulièrement bien écrites. Je crois que le dialogue participe beaucoup de cette complexification du sujet. En fait, ça devient moins un film à sujet qu'un film de dialogue. Et je trouve que vraiment, les scènes sont particulièrement réussies. Et puis, bon, on en reparlera, l'actrice principale qui est de tous les plans, qui s'appelle Carolina Sanin, est quand même assez magnétique, c'est-à-dire que moi qui n'aime pas particulièrement les acteurs et qui du coup a aussi beaucoup de problèmes. Non mais j'ai du mal. Non mais j'ai du mal à commenter les acteurs, les jeux d'acteurs. C'est jamais un truc qui m'intéresse particulièrement. J'ai pas grand chose à dire dessus
lundi
en général.
Dans l'émission théâtre, elle est ouais.
non mais c'est vrai. J'ai en fait jamais rien à dire sur les acteurs. C'est pas un truc qui me passionne a priori. Et là, je trouve qu'elle tient quelque chose qui est quand même assez rare. Enfin, une grande intelligence du jeu. Qui maintient en permanence le doute sur ses réelles motivations, sur l'effondrement potentiel. Enfin, c'est quand même très fin, tout ça.
Antoine Guillot n'a pas trouvé ça très fin, d'après ce qu'il nous a dit tout à l'heure.
Non, c'est pas là-dessus que ça se joue. Je trouve effectivement les comédiens absolument formidables, ou en tout cas formidablement dirigés.
Ça vous intéresse, vous, les comédiens, Antoine ?
Moi, j'aime bien les comédiens.
Non, c'est juste pour savoir, je fais un point, en fait. J'apprends des choses ce soir.
J'aime tout, moi, dans le cinéma, a priori. Donc, en particulier, oui, les comédiens... non, j'ai pas dit dans ce film, j'ai dit dans le cinéma. Les comédiens sont formidables, enfin, les comédiennes, principalement, parce que c'est un film, quand même, principalement de comédiennes. Mais
il y a un petit garçon et un grand nounours.
Et même le petit garçon est très bien, ce qui est assez rare au cinéma. On sent, voilà, c'est de la veine très naturaliste, où les comédiens ont dû avoir assez libre cours pour réinventer leurs personnages, les dialogues, et voilà. Non, pour moi, c'est pas là où ça se joue. C'est-à-dire, j'aurais aimé que le film, qui est quand même très balisé, qu'on a déjà beaucoup vu, des histoires notamment de parents en train de partir, l'agonie d'une mère, enfin, je vais pas remonter à crier chuchotement, mais enfin, je remonterais plutôt à La Gueule Ouverte, parce qu'il me semble que c'est le grand modèle de ce film qui... Oui, c'est ce qu'il dit. Mais enfin, il commence le film exactement pareil par une scène de Scanner qui est quand même...
C'est devenu l'IRL, c'est la modernité, mais de
La Gueule Ouverte. Je pense que le gamin s'appelle Antonio à cause d'Antoine Piala.
Je crois que c'est à cause de vous, Antoine.
Et non, malheureusement. parce qu'on pense aussi beaucoup à la tête qu'avait Antoine Piala dans Le Garçu. Et puis, surtout sur ces scènes d'affrontement familial, parce que Litigante, puisque c'est le titre, c'est à la fois les plaideurs, c'est-à-dire les avocats, mais on pourrait appeler ça les disputeurs, enfin les disputeuses plutôt, puisqu'elles passent leur temps à se bouffer le bec, sauf que on aimerait que ça aille beaucoup plus loin. Et il me semble, peut-être parce que précisément c'est sa mère qui joue dedans, qu'il n'ose pas aller aussi loin dans... Mais je dis même pas que Piala, hein, parce que Piala m'est venu après. Mais je trouve que tout est un peu édulcoré. C'est-à-dire que tout reste assez gentil. Quelqu'un qui est en train de mourir, c'est horrible. Et c'est même très laid à voir. Des rapports monstrueux, comme il semble qu'il puisse y en avoir sur cette mère qui reproche à sa fille depuis des années des choses. Je trouve que ça ne va jamais assez loin. Et le gros problème, je crois vraiment que c'est l'absence de mise en scène. Il faut le dire quand même clairement. C'est-à-dire, j'ai vu ce film à Cannes. J'ai vu ce film en ouverture de la semaine de la critique. Et quand on m'a dit que le film était inscrit à la dispute, je me suis rendu compte qu'il ne me restait rien de ce film. Donc je suis retourné le voir pour savoir de quoi je parlais. Et en fait, l'ennui a été total. Pas parce que je connais c'est l'histoire, mais parce que la mise en scène est tellement le tout venant d'un certain cinéma, justement dérivé de Piala, se disant il suffit de mettre des comédiens devant une caméra, leur laisser un peu libre cours, puis après on verra comment on monte. Il y avait du dispositif de mise en scène extrêmement fort chez Piala, et là il n'y a rien. Il n'y a que des plans qui sont à peu près toujours les mêmes, qui sont montés dans des champs contre champs assez feignants. Et le problème, c'est que quand on n'est pas accroché par l'image, il y a un moment ce qui arrive au personnage, on s'en fiche un peu, parce que le regard qu'il peut y avoir dessus et l'âpreté qu'on serait en droit d'attendre d'une histoire pareille est totalement absent.
Muriel Joudet, à présent, sur cette mère incroyable.
Non, c'est vrai que c'est pas un film qui brille par sa mise en scène, je pense qu'il brille par autre chose. Après, justement, moi, c'est là que le film me plaît, justement sur le fait de pas d'étouffer la violence, mais c'est un film qui construit sa justesse, mais vraiment scène par scène. Alors qu'il a vraiment tout contre lui, son affiche, son titre, son sujet, son synopsis, tout. Moi, jamais j'irai voir ça, en fait. Et j'étais très contente de l'heure, parce que je me suis dit, voilà, c'est en fait, à force de marketer les objets, on sait plus, ça donne plus trop envie. Et il échappe à tout ça. À tous ces codes de distribution, notamment par sa manière justement de traiter le film à sujet, c'est-à-dire le cancer, comme justement le cancer arrive au milieu d'autres choses, arrive au milieu du quotidien, arrive au milieu du fils à éduquer, d'une nouvelle histoire d'amour, tout s'enchevêtre et tout est traité à égalité. Et ça, c'est une idée que j'aime beaucoup au cinéma, cette manière de tout égaliser. Et alors moi, ma référence était Tendre Passion. Alors c'est Tendre Passion est de James L. Brooks
meilleur film, enfin Oscar du meilleur film en 84, est un chef-d'œuvre absolu. Il s'agit pas de comparer à de dire que c'est la même chose, mais je sens l'influence. Il y en a qui voilà qui rigolent, qui en termes d'écriture.
Mais vos goûts me surprennent toujours, Muriel Jodé.
Mais les vôtres aussi.
C'est normal.
Et en termes d'écriture, je sens cette éthique de traiter du cancer, mais qui n'empêche pas la joie, qui n'empêche pas une scène de karting avec avec son enfant. Moi, je suis très très sensible, voilà, à cette égalité narrative qui est pour moi vraiment une morale de cinéaste et qui rend le film extrêmement juste. Et l'autre chose, donc, c'est Carolina Sanin qui justement est une sorte de bloc de colère et de fatigue, mais rentrée, c'est-à-dire elle n'explose jamais, si ce n'est dans quelques discussions avec sa mère. Et en fait, ça aussi, c'est dans le temps de passion, cette idée que même si votre mère est malade, vous pouvez encore vous engueuler avec elle, vous pouvez encore être extrêmement irrité par tout le monde. Telle dispute va finalement provoquer des conséquences deux scènes après, quand vous allez aller dans un dîner avec votre petit copain. Il y a une justesse psychologique et de écriture qui me paraît assez juste. Après, c'est vrai que c'est une réussite très modeste, très calme. Il n'y a pas de coup de force. Il n'y a pas de mise en scène, mais ça se joue peut-être ailleurs, sur le visage de ce, voilà, le bloc de tristesse qui ne se montre jamais, qui, voilà, c'est à la fois discret, c'est peut-être cette discrétion qui joue contre le film, mais que j'ai trouvé très belle.
Moi, je suis surpris de voir effectivement tout ce qui tient en 95 minutes dans ce film, et c'est pour rejoindre aussi ce que disait Muriel Jodé, c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont toutes finalement sur une forme de plan d'égalité, qui est aussi important d'aller boire des coups et pouvoir s'engueuler avec son chéri parce qu'il a regardé une autre fille, qu'effectivement de dire à sa mère si il faut que tu ailles faire ta chimiothérapie, et il y a des rapports qui sont comme ça toujours très à la fois très très tendus, et en même temps il y a ce que j'ai été sensible à la douceur de ce film là parce que c'est un film qui se tient debout, enfin qui a une sorte de droiture, d'honnêteté, de rigueur dans les rapports entre les uns et les autres. Et moi, alors pour le coup, à l'inverse de vous, Antoine Guillaume, quand j'ai appris, après avoir vu le film, que c'était la mère du cinéaste qui jouait le rôle de la mère de l'héroïne, je me suis dit, au contraire, qu'est-ce qu'il est allé loin avec sa mère de lui faire faire des choses pareilles, sachant que sa mère elle-même avait été victime d'un cancer et que quand il a tourné ce film, elle était en rémission, mais il fait se recouper les cheveux très rares, enfin des choses qui sont d'une violence extrême pour celles et ceux qui connaissent ce type de situation. Moi, je trouve que ça va très loin et que c'est vrai que je me suis moins posé des questions de mise en scène parce que j'étais tenu. Oui, par cette, ça fait un peu gros mot, mais une sorte de dignité et en même temps de ténacité dans ce film qui est quand même suffisamment rare, me semble-t-il. Antoine me regarde d'un air si étrange que je lui donne la parole avant vous, Lucille Como. Antoine Guillot.
Non, mais je pense à une cinéaste qui filme sa mère, qui est Valeria Bruni-Tedeschi. Il me semble que, quoi qu'on pense de son cinéma, dans ce qu'elle lui fait faire et dans la manière
quelle
elle-même...
Quelle est la fin de cette phrase? On a tous intrigué.
Qu'elle a de filmer, elle va beaucoup plus loin.
Ah bon, vous trouvez?
Ah oui. Vraiment.
C'est pas du tout le même genre et pas le même.
Non, mais c'est évidemment pas le même. Non, mais moi, je savais pas non plus que c'était sa mère. Donc c'est après que je l'ai découvert. Et au contraire de vous, ça m'a expliqué pourquoi il y avait, il me semble, cette réserve et cette manière de, effectivement, de traiter et la justesse psychologique. Enfin, j'ai tout à fait d'accord avec vous pour tout ce que vous dites. Mais il me semble que ce que vous louez comme une façon d'égaliser les choses est pour moi plutôt un problème de nivellement qui fait que ce film. Tellement sans aspérité, et plutôt un bon film, mais qui m'ennuie profondément.
Mais c'est comment ?
Pour des raisons esthétiques.
Le précédent film de Franco Lolli, qui s'appelait Rente des Biens, était à l'inverse un film assez esthétisant, très très mis en scène, avec un sens du cadrage hyper montré. Il y avait une sorte de démonstration de force d'un point de vue un peu plastique. Là, il fait complètement autre chose. Ça m'a vraiment surprise. Moi, j'ai été assez cueillie par cette absence, entre guillemets, de mise en scène, que je mets vraiment sur le compte, en effet, d'une forme d'éthique. Et je trouve ça assez beau. Une forme d'éthique, de franchise. Vous le disiez, ça va pas assez loin. Moi, ça me paraît justement assez réel. Enfin, il y a un effet de réel dans cette espèce de nivellement. En effet, ça part jamais complètement en hystérisation dans les conversations. La mort, elle s'inscrit dans un quotidien, c'est-à-dire qu'on va promener son chien et puis hop, on est mort. Je trouve ça justement assez réaliste, un effet de réel qui fonctionne, pas réaliste, mais en tout cas, l'effet de réel pour moi fonctionne.
Muriel Jodé, enfin.
Mais c'est vrai que le problème, c'est la hantise, c'est le comme dans la vie, le rêve de t'atteindre tout grand cinéaste, enfin tout petit cinéaste naturaliste. Et là, c'est le bon sens de comme dans la vie, je trouve. Et c'est vrai que je me suis dit, si ce film avait été français, ça ressemble à du Justine Triet ou ce que, à Victoria.
D'ailleurs, la fin ressemble à Sibylle. Hein,
ouais, vraiment. Je pense qu'on l'aurait peut-être encore plus loué s'il avait été français, parce que je pense que beaucoup de cinéastes, et Justine Triet est quand même un exemple que j'aime beaucoup dans cette veine-là, mais beaucoup de cinéastes se coltinent ce truc du portrait de femme sans le réussir, ou alors quand on sait pas mettre en scène, quand on sait pas écrire une scène, on va mettre une dispute, ou on va casser de la vaisselle, ou on va, je sais pas...
Mettre de la musique.
Voilà, on va se débrouiller, mais là justement, je pense qu'ils se coltinent les scènes, c'est ça qui est important, et se coltiner, ça, souvent, c'est juste aller au bout, commencer un début de dispute, voir comment on fait pour la calmer. Et je sens qu'il se coltine ses scènes, il se coltine ses personnages, notamment le petit copain de Sylvia, que je trouve très... Il y a une scène très érotique où elle lui embrasse les selles, je crois. Et d'un seul coup, il y a une sorte de force d'apparition de ce corps. On voit exactement là où il est, cet homme. Il essaye d'entrer dans la vie d'une femme, et en même temps, elle est en train de vivre un truc un peu traumatisant, et tout, c'est une sorte de carambolage. Et en même temps, rien n'est souligné. Mais c'est vrai que peut-être que, oui... Antoine Guillaume aurait aimé le film s'il avait été français. Qu'en pensez-vous ?
Non, je pense que je me serais ennuyé pareil. Mais je voulais quand même dire que j'aime beaucoup le dernier plan du film.
Alors, allez voir sur les bons conseils d'Antoine Guillaume.
Allez le revoir.
Le dernier plan, plus les plans précédents. De Une mère incroyable. Bon, on a dit ce qu'on pensait de ce titre français. De Franco Lolli. Si vous voulez en savoir un peu plus encore, vous écoutez Franco Lolli, qui était l'invité de Raphaël Bourgois dans la Grande Table il y a 3 jours. Que vous pouvez donc réécouter ou podcaster sur le site de France Culture.
Et vous, je me prenais la tête à faire des carjacking, à ramener là la voiture pour partir faire le transport.
Et c'est normal, tu t'es coincé à traquer. Ouais.
Là, j'ai fait piquer. C'est là, ici, à Marseille. Voilà, la voiture était traquée, frère. Je m'en remontais direct. Sortie d'autoroute, barrage. Boum!
Ça va, tu as quel âge?
19.
Ah bah, tu es jeune.
Bah, c'est ma 4e peine, frère. Je sors de 2 ans en février 2017, je reprends 3 ans.
C'est là, voilà, de rentrer, de ressortir. Tu vois, les gens, ils ont des sous. Tu as compris, ils sont bien. Toi, tu sors de prison, tu as envie de te refaire. Tu vois ce que je te dis ou pas? Et après, tu tombes dans le piège, toi.
C'est l'heure du coup de cœur de Lucine Comeau pour Des Hommes, dont on a entendu quelques bribes, évidemment, de ce film d'Alice Audio et Jean-Robert Vialet, Lucine.
Oui, Alice Audio et Jean-Robert Vialet, c'est des journalistes au départ qui ont d'ailleurs tous les deux été récompensés par le prix Albert Londres. Et c'est un documentaire dont l'intérêt premier tient d'abord à ce qu'il permet de voir, c'est-à-dire entrer dans un lieu fermé, cette prison marseillaise des Baumettes, qui est emblématique par sa réputation d'être un des pires lieux de privation de liberté en France, avec des conditions absolument abominable, des cellules surchargées, des rats partout, des fuites d'eau, une violence extrême entre les détenus, et des hommes qui sont 23 heures sur 24 dans quelques mètres carrés, qui ont une heure de pause, enfin de promenade par jour, et un vacarme assourdissant qu'on entend aussi beaucoup dans le film. Elle a été d'ailleurs beaucoup pointée du doigt pour ça, la prison, et elle a fermé définitivement ce bâtiment-là, en tout cas, en 2018. Donc le film insiste d'emblée sur cette opportunité qu'ont eu les réalisateurs d'avoir pu y passer plusieurs semaines. Moi, j'ai craint une forme de sensationnalisme au départ qui m'aurait mis dans une position de voyeur à regarder par l'œil ton dans chaque cellule la misère d'autrui. Or, ça n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, dès les premières images, il filme un homme derrière une porte vitrée très sale, complètement abîmée. Un homme qui fait les 100 pas. On ne sait pas exactement ce qu'il attend. Et sa gestuelle un peu brusque, il a des mouvements un peu compulsifs, laisse entendre que bon, mentalement ça va pas très bien. C'est assez perturbant, et surtout ça ne nous donne une impression qu'on ne sait pas si on est déjà dedans ou dehors, et ça met dans une position très malaisante, qui restera la position qu'on a pendant tout le documentaire, dans un film qui prend vraiment le temps, avec des séquences très longues, beaucoup de visites de ces lieux intermédiaires, de couloirs qui sont absolument infects, il y a des fuites d'eau partout, des pans de murs qui vraiment s'écroulent, c'est vraiment le tiers-monde. Et donc à l'intérieur des hommes, l'homme. L'indétermination de l'article a toute son importance, puisqu'il ne s'agit pas de représenter ni de représenter avec exhaustivité la population de la prison. C'est des individus très différents. Il y a un homme, par exemple, un homme jeune qui passe devant la direction de la prison parce qu'il a passé de la drogue à travers le parloir. Il y en a un qui a participé au lynchage d'un autre détenu. Et c'est assez drôle, pas du tout drôle. Mais non, mais c'est très étonnant parce qu'il y a une conversation qui paraît totalement anodine et on comprend au final que le type est mort et que les gens meurent vraiment dans la prison dans une sorte de, pas d'indifférence, mais de banalité de la violence. Il y en a un aussi, c'est une séquence très intéressante qui se retrouve à être en audience par Skype, donc via un écran. Et comme tout est pourri dans la prison, l'écran est pourri, le son est pourri, il est obligé de se pencher pour entendre ce que dit l'accusation, ce que dit la défense, alors que c'est un moment absolument crucial pour lui puisqu'il s'agit de sa libération. Donc on perçoit vraiment bien comment la prison reproduit aussi des inégalités. Il y en a qui ont de la famille, il y en a qui cantinent, il y en a qui ont de l'argent et qui s'en sortent. Et d'autres, à l'inverse, qui sont dans une condition de démunis absolument incroyable, et notamment de point de vue de la santé mentale. C'est-à-dire, il y a un moment où il y a une infirmière, on ne sait pas si c'est une infirmière ou docteur, qui vient visiter un patient, un détenu, et on a l'impression qu'il est vraiment complètement confus. Donc c'est un titre qui est assez beau, qui tire quelque chose en effet quand même d'esthétique du lieu, mais sans démontrer, ce qui ne produit pas de gêne de ce point de vue. Il n'y a pas de commentaires, par exemple, il n'y a vraiment que les voix des détenus, et qui n'entend pas moraliser. D'ailleurs, le film finit avec un plan sur la même personne, cette personne qu'on a vue au départ, derrière la vitre, et on ne sait toujours pas si on est vraiment sorti ou si on est toujours à l'intérieur.
Peut-être pour le savoir, on écoutera Marie Richeux ce soir dans Paris Temps qui court, puisqu'elle recevra justement Alice Audio et Jean-Robert Vialet pour venir parler de ce film qui est votre coup de cœur cette semaine, Lucille Comeau. Il s'appelle Des Hommes.
France Culture, La Dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier film à notre sommaire ce soir, c'est Jinpa, un conte tibétain de Pema Tseden. Alors, moi j'étais, et j'imagine vous aussi, très curieux de une cinématographie venue d'un pays qui produit peu de films. D'autant que Jinpa n'est que le deuxième de ce cinéaste arrivé sur les écrans français, alors que c'est son sixième long métrage. Jinpa, un conte tibétain, se nourrit de deux nouvelles. L'une écrite par Tseden lui-même, qui a d'abord écrit avant de filmer. Dans ce film, on va rencontrer donc un camionneur prénommé Jinpa, qui traverse le Tibet, c'est son boulot, qui commence par écraser accidentellement un mouton. Peu après, il va prendre un homme en stop. L'homme s'appelait lui aussi Jinpa. Deux événements qui vont perturber le routier.
Jinpa.
Jinpa.
Un premier regard sur Jinpa, un conte tibétain, Antoine Guillot.
Je ne sais pas si c'est un film, mais c'est un rêve en tout cas.
Muriel Joudet.
Oui, c'est y a une atmosphère un peu trop atmosphérique pour moi dans ce film.
Lucille Comeau.
Moi, je trouve que c'est un rêve dont justement la sophistication ne compromet pas la tension narrative.
Vous avez vu ces phrases de Lucien Comeau.
Impressionné.
Fayotte.
Fayotte, chacun son tour. Bon, Antoine Guillot, développons un rêve, un film.
Oui, alors vous disiez tout à l'heure que les événements ne laissaient pas indemne le protagoniste. Je crois qu'il ne laisse pas indemne le spectateur non plus.
Pourquoi ces ricanements ?
Je ne sais pas.
Parce que, alors c'est peut-être effectivement le contraire inverse complet. Pardon, voilà.
Le contraire inverse, donc c'est la même chose.
Oui, peut-être. C'est le contraire en termes de dispositif, en tout cas de Franco Loli. C'est-à-dire que là, il y a un excès de mise en scène, d'images, mais qui aboutit à quelque chose de très étrange. Alors je ne sais pas si j'étais particulièrement fatigué quand je l'ai vu, ou si l'effet voulu du film, mais ça vous place dans un état de torpeur un peu hypnotique et hallucinatoire par moments. C'est pour ça que je disais que c'était un rêve, ce film. qui fait qu'on ne sait jamais trop si on voit réellement ce qu'on voit ou si on est déjà passé à un état supérieur qui nous fait voir des choses bizarres. Donc il y a un sens, déjà le premier plan qui est voilà, ce plan très long qu'on a beaucoup vu, là ça doit être le côté influence Kiarostami chez ce cinéaste d'un camion qui va mettre une éternité à traverser une étendue, sauf que cette étendue est tellement sableuse à l'image où tout se confond, qu'il y a un effet d'écrasement comme ça du plan qui fait déjà qu'on n'est même plus dans un paysage. On est très clairement dans quelque chose de très mental, hein, de très curieux. Vous disiez que c'était un pays, c'est malheureusement plus un pays depuis longtemps, le Tibet, puisque c'est une province de la Chine maintenant. Mais c'est peut-être.
Mais j'avais envie de le dire comme ça.
C'est peut-être le premier film tibétain qu'on voit. C'est-à-dire qu'on voit moins le Tibet que d'avoir le sentiment étrange d'être plongé dans une cosmogonie, une façon de penser le monde tibétaine, à laquelle, personnellement, je n'ai rien compris.
Ah bon?
Mais j'ai beaucoup aimé ne rien comprendre et avoir le sentiment d'aborder une façon de se représenter la mort, la réincarnation, le double, la nécessité de, quand on écrase un mouton, qui doit être le seul mouton à 10 000 km² de distance. Enfin, c'est vraiment le principe de l'arbre dans le désert. Là, il est sur la route et hop, il suffit qu'il regarde ailleurs et paf, il écrase un mouton. Qu'est-ce qu'on va faire de ce mouton et les tréfonds mystiques dans lesquels ça va le plonger? Tout ça, je trouve ça passionnant. Le fait qu'on est ce personnage, comme vous l'avez dit, de double, de projection, donc il y a à la fois la projection que nous-mêmes on peut avoir comme spectateur, qu'a le personnage dans des sortes d'images qui est même plus sableuse là, mais qui part dans des effets de distorsion, du flou. Alors là, ça doit être la dimension Sokurov, à mon avis, c'est quelqu'un qui a vu beaucoup de films de ce genre-là. C'est moi, j'ai lu un peu partout, ah oui, c'est produit par Wong Kar-wai, donc il nous fait du Wong Kar-wai à l'image. Je crois pas que c'est du tout le projet.
On peut ajouter Nouri Bilgejlan aussi.
Oui, il y a ça. Il y a ça, mais c'est la même tradition. En tout cas, Kiarostami est peut-être affiné en passant par Nouri Bilgejlan. Mais en tout cas, voilà, c'est une
expérience. C'est des cinéastes qu'on aime quand même.
Absolument. Et moi, j'ai plutôt envie de creuser. J'ai pas vu son film précédent, là, son berger.
J'ai très envie de le voir.
Son berger tibétain. Mais manifestement, c'est quelqu'un qui change beaucoup de manière de film en film. C'est-à-dire qu'il n'est pas enferré dans un système. Il a envie d'essayer des choses dans
comme
le cinéma.
Comme Franco Loli.
Pour traduire quelque chose qui serait de l'âme tibétaine, peut-être, ou en tout cas, qui nous place, nous, spécifiquement avec ce film, dans un état d'esprit que je trouve rare au cinéma, parce qu'on n'est même plus là à essayer de réfléchir et d'analyser, on se laisse porter et perdre dans ce film.
Muriel Joudet sur Jinpa.
Oui, c'est vrai que c'est rare de voir un film où on n'a pas les codes culturels, parce que souvent tout arrive avec, on sait à peu près... voilà, où c'est des films canois, des films chinois canois, donc on comprend, il y a un peu des codes, non, vous voyez, des codes européens un peu partout, bon. Donc là, c'est vrai qu'on se dit, bon, il y a quelque chose qui nous échappe, qui reste opaque. Néanmoins, j'ai quand même pensé à des cinéastes, par exemple, j'ai pensé à Jarmusch, avec ce truc un peu taiseux. J'ai pensé même, vraiment, je me suis dit, on dirait les contes yiddish des frères Cohen au début de leur film, et étirés à 1h30, où on sait pas trop où ça va, on sait pas trop quelle morale en tirer. Et bon, c'est vrai que à force d'opacité opaque, je vais faire de mystère mystérieux, voilà, on se demande où ça converge. Et pour moi, c'est vrai que le problème a été ce moment où on se demande où est-ce que ça va est en fait intéressant parce que du coup, on est un peu captivé, on est embrumé, à moitié endormi, enfin, on est réveillé et endormi en même temps parce qu'on se demande ce qu'on est en train de regarder. Et c'est vrai qu'après, à un moment, je me dis bon, quand même, ça, tout ça ne converge vers rien et surtout converge vers une citation. Et c'est vrai qu'on devrait interdire, j'interdis même les citations à la fin des films, à part pour dire que le héros est mort, comme dans Richard Jewell.
Mais là, c'est pas une citation,
oui. Oui, mais là, en tout cas, là, il y a une citation.
On a un proverbe tibétain.
C'est-à-dire que qu'est-ce qui, à un moment, il faut se coltiner ce qu'on veut dire et pas attendre qu'une citation vienne le dire, vienne signifier quelque chose au début, à la fin du film. J'ai l'impression que c'est un peu trop facile et que c'est un peu un aveu d'échec. Et puis, le film, c'est vrai, est un peu surchargé en effets cinématographiques. Moi, j'ai trouvé l'image très laide, une sorte de sépia numérique. Surexposé, ça m'a vraiment mis à 10. Je sais pas trop comment décrire ça, mais j'ai trouvé un peu que c'était un film d'étudiant en cinéma, en fait, dans les effets, les décadrages, la mise en scène. Je trouvais ça un peu trop appliqué.
J'aimerais qu'il y en ait autant de doués, enfin d'aussi doués que ça.
Oui, mais c'est trop poli. Je vois trop, la sorte de politesse à des maîtres comme ça. Mais c'est un film qui est, je veux surtout en retenir sa bizarrerie et le fait que j'ai rien compris et que c'est très bien.
Ah, c'est bizarre, rien compris. Enfin, j'y reviendrai après Lucille Comeau.
Non, moi je trouve justement que cette sophistication que j'aime vraiment pas en général dans les films, et c'est vrai qu'il y a une multiplication d'artifices, vous avez parlé du côté un peu poudreux, engourdi, mais il y a aussi du noir et blanc, il y a des effets de sfumato sur une scène de western presque dans un saloon qui se reproduit deux fois. Moi je trouve qu'elle rencontre un truc qui est très mystérieux, en effet qui est une sorte de conception temporelle qui est évidemment liée à la mort, qui influence énormément le film, puisqu'il y a des effets de répétition, ça pour le coup dans le cinéma asiatique on en voit beaucoup ces derniers temps, qui s'articulent à la figure du double, c'est-à-dire que tant les deux personnages s'appellent Jinpa et ont une sorte de destin commun, en tout cas on ne sait pas si c'est le même personnage ou deux personnages différents, et il y a aussi des effets de répétition, donc l'espace est reparcouru en permanence deux fois, et du coup le geste cinématographique devient une forme de rituel, et là se justifie un peu à mon avis le côté extrêmement plastique et très cérémonieux, très sophistiqué du geste cinématographique. Moi la mystique en effet j'y ai rien compris non plus, je suis comme vous, tout le passage où il apporte ce mouton mort à un moine pour lui donner une bonne sculpture, j'ai absolument rien compris.
Mais c'est très explicite.
Non, mais c'est en fait, moi je m'en fiche de pas comprendre. Je trouve ça assez même passionnant. Et alors moi, ça m'a pas fait penser à grand chose dans le cinéma parce que je connais rien en cinéma, c'est bien connu. Mais voilà, c'est ça. J'assume. Non, par contre, ça m'a. J'ai trouvé en effet que le projet littéraire était assez évident derrière le film, d'où peut-être aussi la citation finale. Et le personnage m'a apparu vraiment comme un personnage très dostoïevskien. Donc, vous parlez de cinéma russe, il y a quand même quelque chose dans ce personnage torturé jusqu'à l'obsession. L'obsession qui devient une forme dans le cinéma, c'est-à-dire la répétition, le retour, etc., qui est assez passionnante. Et j'ai été assez perdue comme lui, et dans une tension qui est quand même celle de l'angoisse. C'est-à-dire que dans ce côté un peu engourdi, poudreux, tripe un peu, il y a quand même un surgissement de la violence qui peut être permanent. D'ailleurs, la violence surgit avec ce mouton sous les roues, et qui peut revenir et qui nous laisse quand même toujours un peu à l'affût. On n'est pas complètement dans un trip. On a peur du réel, de l'affrontement avec le réel. Ça, je trouve ça vraiment assez tenu et pas mal.
Pas mal. Pour essayer d'être un peu synthétique, je suis comme vous. C'est vrai que les films dont chaque image pourrait être prise et exposée dans une galerie d'art, c'est un peu dangereux. Moi, je trouve très beau par ailleurs. Il faut bien qu'on soit en désaccord.
C'est votre avis.
Non, il faut bien qu'on soit en désaccord, sinon ce serait pas drôle. Mais moi, c'est un film qui m'a gagné en fait au fur et à mesure de la projection, parce que tout ce début, effectivement, très citationnel, très léché dans l'image. Ça me mettait plutôt à distance. Et en fait, moi, je trouve surtout rugueux ce personnage principal. Je trouve assez formidable. Il y a une opacité opaque, pas tant que ça, parce qu'il y a plein de petites failles chez lui. Enfin, des ouvertures, failles au sens on peut voir un peu à travers ce qui se passe. Effectivement, cette arrivée au saloon, elle est quand même absolument géniale. Tout d'un coup, avec la patronne du saloon du village tibétain, qui est une beauté à tomber à la renverse. Lui aussi est très beau. En plus, je sais pas si vous l'avez pas dit, peut-être parce que vous ne le trouvez pas beau. Ça passe, Nimoël Jodé. Non, mais il dégage quelque chose d'assez magnifique à l'écran. Et il y a en même temps il y a une forme de drôlerie dans leur relation de drague à ces deux-là. C'est une scène un peu centrale dans le film, donc qui dure un certain temps. Moi, je trouve ça très beau, très drôle. Je ne sais plus qui parlait de la fin tout à l'heure. La façon dont les choses sont censées se dénouer est quand même vraiment pas la chose que je préfère dans le film, ce qui est dommage parce que ça finit sur une double mauvaise note. Cette citation et cette fin, j'ai dit que c'était ici deux nouvelles, une qu'il avait écrite, l'autre d'un autre auteur tibétain. J'ai l'impression que la couture était quand même un peu complexe et qu'on voit beaucoup la façon dont c'est rapiécé. Voilà, j'essaie d'être synthétique, court, rapide, mais la rugosité, vous êtes d'accord, mon cher Antoine Guy, vous avez vu opiner.
La rugosité et l'humour, j'ai pas dit tout à l'heure, mais le personnage en lui-même est très drôle, c'est son côté jarmuchien, effectivement.
Oui, absolument.
Le côté rocker tibétain, des lunettes de soleil.
Ils ont des bijoux formidables, les Tibétains.
Et surtout ces discussions avec l'autre Jinpa, qui est un peu ras du front, qui prend tout au pied de la lettre.
Oui, qui est très drôle aussi.
Il y a un côté burlesque tibétain aussi que j'aime beaucoup.
Ouais. La joaillerie tibétaine, une bague invraisemblable, des colliers, les bois. Femmes aussi.
Comme Uncut Gems, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Pas encore, on en parle tous les jours au bureau, on me demande si je l'ai vu, mais pas encore. Quasiment, oui, pas sous les mêmes latitudes. Bon, allez voir Jinpa, un conte tibétain.
Ça marche très bien en plus.
C'est vrai ?
Oui. Non, c'est vraiment j'y suis allé dans une salle quasiment pleine et depuis mercredi le film vraiment marche bien, donc il faudrait
formidable.
Que ça continue
en cette fin de semaine. Allez voir ce film de Pema Tseden. Avant de conclure, le jeu de la dispute et Lola Schilder qui nous a rejoint, qui aime aussi les bijoux tibétains, elle opine, elle va nous rappeler la question du jeu d'hier et nous donner sa réponse, Lola.
Qui a réalisé la bande originale du film Trois étés ? Et la réponse est Bernard Seppas.
Ce soir, des invitations à gagner pour aller voir l'exposition de Ulla von Brandenburg au Palais de Tokyo qui a ouvert hier, dont on parlera bientôt dans l'émission. La question ?
Comment s'intitulait l'œuvre de Ulla von Brandenburg présentée à l'occasion de la réouverture du Palais de Tokyo en avril 2012 ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Elsa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinot, Lula Schindler, prise de son ce soir Jacques Azubert, réalisation Alexandre Fougeron. Lundi à 19h, une dispute de théâtre avec Marie-Josée Sirache, René Solis et Jean-Christophe Brianchon. Nous parlerons de Angels in America, la pièce de Tony Kushner mise en scène par Arnaud Desplechin. La Carpe et le Lapin qui réunit Vincent de Dienne et Catherine Fraud. Phèdre, c'est un texte de François Grémaud d'après Racine, on l'aura compris. Et puis un coup de cœur, le mien, pour Motel, texte et mise en scène de Charlie Fournier.